Descartes écrivait en 1635, tout simplement dans le discours sur la méthode, grâce à la science, dont il a été l'un des fondateurs de la science au sens moderne, grâce à la science, il est possible de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ambition, évidemment, très très vaste. Et cette idée est restée dominante pendant extrêmement longtemps, y compris pendant une bonne moitié du XXe siècle encore. Je vous montre ici, vous n'en voyez pas les détails, mais vous en voyez au moins les couleurs. C'est une grande fresque due à Raoul Dufy en 1937, donc la deuxième moitié du XXe siècle, grande fresque qui s'appelle La Fée Électricité et qui orne les murs du Palais de la Découverte à Paris. Donc tout ça est dans des couleurs tout à fait charmantes, comme vous pouvez le voir. L'électricité est vue comme effectivement la fée qui va embellir notre vie. Je vous rappelle sans vous le montrer, mais que c'est exactement la même année que Picasso peint Guernica, qui au lieu d'être en charmante couleur pastel est en noir et blanc, et avec, comme par hasard d'ailleurs, une ampoule électrique elle aussi qui éclaire très brutalement la scène depuis le plafond. Donc jusqu'en 1937, il y a encore beaucoup de gens pour penser que effectivement la science va être identifiée au progrès. Et puis en 2007, donc 70 ans plus tard, voici un dessin de Plantu dans le monde où les couleurs ne sont plus tous les mêmes. Là, on est dans le noir. La planète est couverte d'industries polluantes dont le résultat est de très mal nourrir quelqu'un qui vient évidemment du Cameroun. Donc un changement complet de perspective. Alors, les paradoxes dont je veux parler sont au nombre de quatre. Le premier, ce que j'appelle le paradoxe économique, qui est le suivant. D'une part, jamais la science fondamentale, je parle bien de la science fondamentale, ici, celle qui s'occupe de comprendre ce qu'il y a au cœur des atomes, des noyaux, des cellules, des étoiles lointaines, etc. Jamais la science fondamentale n'a été plus intimement liée au système technique et industriel. Mais son poids économique propre stagne désormais alors que celui de la recherche finalisée, c'est-à-dire la recherche assignée à des buts concrets, pratiques, ne cesse de s'accroître. Quelques chiffres, je ne vais pas vous en donner trop, mais quelques chiffres pour vous montrer. Il faudrait que je les renouvelle un peu, mes statistiques sont un peu anciennes, dans quelques années, mais vous voyez ici le produit GERD, c'est le produit intérieur, c'est la dépense en recherche et développement, R&D, c'est le pourcentage de ce qui est consacré à la recherche et le développement par rapport au produit national brut, et vous voyez ceci au fil des années dans le monde entier, dans les contrées développées et dans les pays en voie de développement. Et vous voyez que si ça s'accroît évidemment dans les pays en voie de développement, ce qui est pure tautologie, cela décroît dans les pays développés de telle façon que le total que vous voyez en vert, la moyenne que vous voyez en vert, ne cesse de décroître elle-même. Donc c'est très intéressant d'embarquer que nous dépensons moins aujourd'hui, mondialement, pour la recherche et le développement qu'il y a une quarantaine d'années. Ça, ce sont des courbes qui vous donnent le même pourcentage à gauche, le développement en recherche et développement comme pourcentage du produit intérieur brut. Pour différents groupes de contrées, vous voyez l'Europe des 27, l'OCDE dans son ensemble, les États-Unis et le Japon. Et ce que vous constatez, c'est qu'entre 1990 et 2008, c'est-à-dire sur une période d'une vingtaine d'années, il y a en gros stabilité, des fluctuations, sauf dans le cas du Japon, et c'est là qu'il faudrait prendre les statistiques plus récentes qui vous montreraient la même chose, sauf dans le cas du Japon, on constate qu'à quelques fluctuations près, ça reste constant. Je passe sur la deuxième. Voici maintenant, plus spécifiquement, si vous regardez l'évolution des dépenses, toujours par rapport au produit national brut, des dépenses de recherche et développement aux États-Unis. Bien, vous constatez la stagnation dont je faisais état, c'est la courbe du haut. Vous voyez que d'ailleurs, au début, on est encore dans une période de croissance intense. Effectivement, les années de l'après-guerre, depuis les années 45 jusqu'aux années, en gros, 60 voit une expansion très très rapide et ensuite un plafonnement, là encore avec quelques fluctuations. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'intérieur de cette stabilité approximative, 2,5% du PNB, on constate que la part de des dépenses dues à la puissance publique diminue et que la part des dépenses dues à l'industrie privée augmente. Les courbes se croisent aux alentours des années 1980. L'État était jusqu'à, en particulier les années 60, de loin celui qui finançait le plus la recherche et le développement, et c'est aujourd'hui évidemment l'industrie, l'entreprise privée qui a repris ce rôle. Bon, je ne vais pas vous abrutir de chiffres, je vais juste prendre un exemple très particulier de cette situation qui a vu la recherche fondamentale, qui voit la recherche fondamentale décroître en importance depuis quelques décennies. Ce gigantesque trou, vous voyez l'échelle, vous avez les gens là tout au fond, petits. C'est un trou gigantesque qui a été creusé dans le sous-sol du Texas il y a maintenant pas loin d'une trentaine d'années et qui devait mener à un grand tunnel dont vous voyez l'amorce au fond qui était censé héberger le plus grand accélérateur de particules du monde qui s'appelait le Superconducting Super Collider. Nous sommes évidemment au pays de Superman, nous sommes aux États-Unis, au Texas. Et cet accélérateur visait à atteindre des énergies tout à fait considérables pour faire de la physique fondamentale. Cette physique qui s'appelle physique des hautes énergies, mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'elle fournit des hautes énergies, c'est parce qu'elle en consomme. L'accélérateur à l'heure actuelle le plus puissant, qui est l'accélérateur du Centre européen de recherche nucléaire à Genève, consomme à lui seul autant que toute la ville de Genève, ce qui est la raison pour laquelle on le ferme en hiver, parce que les ressources énergétiques ne sont pas suffisantes. Je vais vous donner l'échelle. Alors, cet objet-là devait être encore bien plus considérable que le LHC, le Large Hadron Collider, qui est à Genève, et en voici un peu l'échelle. Alors, il devait être construit à Waxahachie, au Texas. Il consistait en un anneau souterrain dans lequel on aurait logé l'accélérateur, anneau souterrain qui aurait fait 87 km de circonférence. Aucun tunnel ferroviaire ni routier à l'heure actuelle n'atteint cette dimension-là. Vous avez bien au Japon, tout au nord, qui doit faire une soixantaine de kilomètres, mais ça aurait été le plus grand tunnel du monde. 87 km de circonférence, ça fait une trentaine de kilomètres de diamètre. Tout ça à 100 mètres sous terre. Le devis en 1987 de construction de cet objet se chiffrait à 4 milliards de dollars et 7 ans plus tard, il était monté à 12 milliards de dollars, ce qui n'étonne personne. Ça, c'est ce que les ingénieurs appellent volontiers le facteur pi, pi ça vaut 3,14. Tous les devis initiaux de toutes les grandes constructions technologiques, scientifiques ou purement industrielles sont toujours multipliés par 3. Donc quand on vous annonce un grand projet, on dit c'est formidable, on fera ça pour tant de milliards de dollars, vous pouvez être sûr qu'à l'arrivée, ça en fera 3 fois plus. Et 12 milliards de dollars en 1993, dont 2 avaient déjà été dépensés car il y avait 27 km de tunnels qui ont été creusés. Et bien à cette époque-là, le Congrès américain a stoppé l'affaire. Il a dit: le rapport qualité-prix est trop mauvais, la physique des particules, c'est peut-être très intéressant, mais nous n'avons pas les milliards de dollars nécessaires pour continuer cette entreprise-là. C'était la première fois dans l'histoire de la science, depuis 4 siècles, qu'un projet était arrêté en plein essor. Évidemment, il y a eu plein de projets merveilleux qui n'ont jamais été menés à bien. Parce qu'avant de les lancer, on s'est dit, bon, quand même, ça coûte trop cher. Mais celui-là, on l'a lancé et on l'a arrêté. Alors les physiciens ont crié évidemment comme des ânes, disant « mais vous nous empêchez d'avoir notre joujou, vous avez déjà dépensé 2 milliards de dollars, c'est idiot de les avoir dépensés pour rien, encore un petit effort s'il vous plaît, après on vous promet, on sera sage, on ne vous demandera plus rien pendant très longtemps, on sera beaucoup plus modéré ». Mais la puissance politique, à tort ou à raison, pour l'instant je n'émets pas de jugement de valeur, a dit « non, on arrête les frais là. Et ça a été une sorte de coup d'arrêt qui est très significatif de cette phase de stagnation dans laquelle nous sommes rentrés depuis une vingtaine d'années en ce qui concerne la science fondamentale. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais ils se résument tous à un petit dessin que je vais vous montrer. Vannevar Bush, qui était le conseiller du président américain en 1947 et qui a été l'auteur d'un rapport extrêmement célèbre qui s'appelait « Science, the endless frontier », la science, la frontière sans fin, référence évidemment à la conquête des frontières américaines, « go west, young man », toujours plus à l'ouest, avançons, avançons, et la frontière de la science, elle était censée être sans fin, elle ne serait pas bornée même par un océan. Et donc c'est ce rapport qui a déclenché la montée en puissance fulgurante des crédits consacrés à la recherche scientifique après la Seconde Guerre mondiale. Il faut vous rappeler que la science avait montré ce qu'elle savait faire, à savoir des bombes nucléaires, celles qui ont explosé sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, et que les scientifiques promettaient à l'époque ou des armes encore plus puissantes, ou quand même des applications pacifiques de l'énergie gratuite. Il faut relire ce qui était le journal de vulgarisation des années 50, où on promettait une électricité gratuite. J'ai des numéros de Science et Vie dans lesquels on vous dit mais chacun aura sa petite centrale nucléaire chez soi, il y aura même des voitures nucléaires, ça ne coûtera rien du tout, donc la poule aux œufs d'or. Et bien quelques années plus tard, quelqu'un a illustré cette promesse de la façon suivante: E égale MC2, oui d'accord, à condition de rajouter un nombre considérable, 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions de dollars. Autrement dit, cette expansion considérable des dépenses attribuées à la recherche et au développement a commencé à poser problème, d'où les chiffres et les courbes que je vous ai montrés. Ça, c'est une autre illustration intéressante, c'est l'évolution de la budget de la NASA. Vous voyez que dans les années 60, où la NASA prépare, pour des raisons d'ailleurs essentiellement politiques, de rivalité américano-soviétique, le débarquement sur la Lune, elle a un budget qui explose, et puis une fois que c'est fait, on revient à quelque chose de beaucoup plus raisonnable et de beaucoup plus plat, stagnation là encore, et comme vous le savez, personne n'est retourné sur la Lune depuis les années 60. Dernier exemple. On nous promet une mission sur Mars bientôt. Et ce bientôt, c'est quoi? Eh bien, en 1975, la NASA prévoyait une mission sur Mars en 82, donc dans d'ici 7 ans. En 87, on prévoyait une mission sur Mars en 2000, 15 ans d'échéance, etc., etc. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, le délai, lui, a plutôt tendance à se rallonger. Il est passé de 7 ans à 25 ans. Et aujourd'hui, Obama annonce peut-être, nous irons sur Mars en 2035. Je suis prêt à prendre le pari, mais je ne serai plus là, que tel ne sera pas le cas. Donc voici quelques exemples qui vous montrent le paradoxe économique dont je faisais état. Paradoxe social. Jamais le savoir technoscientifique n'a acquis autant d'efficacité pratique. Bon, à peine que je vous fasse un dessin, l'ordinateur même dont je suis en train de me servir ne fonctionne que parce que les physiciens, au début du siècle, ont découvert la mécanique quantique, par exemple. Que votre GPS fonctionne en intégrant et des objets créés par la mécanique quantique, et même ce qui a été pendant longtemps une des théories les plus ésotériques, la relativité générale d'Einstein en 1914, qui permet de connaître votre précision, votre position, avec une précision de l'ordre de quelques mètres. Si vous ne faites pas ces corrections extrêmement subtiles, votre précision est bien meilleure. Donc, nous sommes environnés d'objets techniques qui incorporent un savoir technoscientifique véritablement de pointe. On pourrait parler aussi évidemment du cas des sciences de la vie et leur rapport avec la médecine. Pour autant, ce savoir scientifique se montre de moins en moins utile face aux problèmes, grands problèmes, la santé, l'alimentation, la paix de l'humanité dans son ensemble. Le cas de la santé est tout à fait clair, je vais l'illustrer par quelques exemples. La tuberculose, là je vous montre une affiche typique des années 50-60, là encore, ceux de mon âge se souviennent que c'était la période de la vaccination BCG à grande échelle, mais il y avait encore des sanatoriums. On envoyait les tuberculeux à l'air de la montagne, je suis sûr qu'il y en a dans les montagnes encore par ici, qui ont été désaffectés parce que, de fait, à partir des années milieu des années 50, fin des années 60, la tuberculose a complètement reculé, mais n'a pas été totalement éradiquée et a fait un retour marqué dans le monde au cours des dernières années. Dans de nombreux pays, la tuberculose recommence à faire des ravages, y compris dans les nôtres. Les populations défavorisées, dans les banlieues des grandes villes, sans domicile fixe par exemple, voient une recrudescence de la tuberculose, une maladie que l'on croyait vaincue et contre laquelle on sait ce qu'il faut faire. On a le vaccin, on a des antibiotiques efficaces. Donc le problème n'est pas un problème scientifique. La science sait répondre, mais elle ne le peut pas pour des raisons évidemment socio-économiques. Bon, je passe sur les citations qui résument ce que je viens de dire. Exemple 2 est paradoxal, l'obésité. Donc vous savez qu'elle est maintenant considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme une véritable épidémie mondiale qui affecte la santé de nombreuses populations. Et le paradoxe étant que l'amélioration des conditions de vie débouche sur une dégradation des conditions de santé. Je vous montre là deux petits chinois, c'est la Chine, un des pays les plus affectés aujourd'hui par cette épidémie d'obésité qui a des effets absolument ravageurs. Le sida, je passe tellement c'est évident. Les maladies d'origine animale, les urgences, le SRAS en 2003, la grippe aviaire, la grippe porcine, Ebola aujourd'hui, puisque vous savez que le réservoir du virus Ebola, ce sont essentiellement des chauves-souris des forêts africaines, mais qui sont capables de le transmettre non seulement à l'homme, mais aux porcins qui eux-mêmes le transmettent à l'homme. Et les conditions d'élevage intensif de nos jours, plus la circulation accélérée des individus à la surface de la Terre par les lignes aériennes et autres, conduit à des épidémies de plus en plus fréquentes. Jusqu'à présent, elles ont été jugulées, non sans avoir fait pour certaines des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Nul ne peut jurer que nous n'assisterons pas, d'ici relativement peu, à une véritable pandémie massive qui se chiffrerait par des millions de morts. Et encore, ce qui est en cause, c'est moins les progrès de la science elle-même. Bon, d'accord, pour Ebola, pour l'instant, c'est pas trop, n'est pas très efficace. Mais pour le sida, par exemple, on a maintenant des traitements extrêmement efficaces. Tout le problème, c'est de les amener là où les gens en ont besoin. Je peux prendre un autre exemple qui est tout à fait typique. C'est le paludisme, qui aujourd'hui a encore fait des millions de malades, peu de morts, mais des millions de malades et de gens invalidés dans les pays du tiers monde, qui a donc un coût économique par rapport au développement de ces pays extrêmement sérieux. Eh bien, il est tout à fait remarquable que les grandes firmes pharmaceutiques dépensent fort peu d'argent et font très peu de recherches sur le paludisme parce que ce n'est pas un marché extrêmement intéressant. Parce que vous ne pouvez pas vendre ça suffisamment cher pour qu'elles fassent les bénéfices escomptés. Il vaut bien mieux mettre au point des médicaments pour les vieux blancs riches, nous, contre Alzheimer par exemple, que des médicaments pour les jeunes noirs pauvres comme malades du paludisme. Troisième paradoxe, ce que j'appelle le paradoxe épistémologique. Jamais la connaissance scientifique n'a atteint un tel niveau d'élaboration et de subtilité. Effectivement, si vous regardez ce que font les physiciens en physique des particules ou en cosmologie, si vous regardez ce que font les biologistes au niveau moléculaire ou sur le génie génétique, vous constatez que c'est vraiment d'une subtilité extrême, que les moyens à la fois conceptuels et matériels mis en œuvre atteignent un niveau de complexité qui n'a jamais été atteint. Et moi, je suis épaté devant les prouesses techniques, effectivement, de mes jeunes collègues aujourd'hui. Pourtant, cette connaissance scientifique se révèle de plus en plus lacunaire et parcellisée, de moins en moins capable de synthèse et de refonte. Ce que je veux dire par là, c'est que les scientifiques aujourd'hui, les jeunes, ceux qui sont vraiment en pleine activité, sont des virtuoses de la technicité, qu'elle soit théorique ou pratique de leur domaine, mais qu'ils n'ont pas la possibilité, ni la formation, ni le temps de prendre du recul et de réfléchir véritablement à ce que ça veut dire. Ils savent manipuler des équations extrêmement difficiles, des appareils extrêmement compliqués. On ne peut pas dire, je grossis, je caricature bien sûr, disant ceci, mais en gros, c'est la situation, qu'ils comprennent véritablement ce qu'ils font. On arrive à une situation extrêmement étrange où beaucoup des aspects les plus intéressants de la science fondamentale du XXe siècle, par exemple la théorie quantique, par exemple la théorie de la relativité, mais par exemple aussi le génie génétique, sont mal compris et mal énoncés par les chercheurs eux-mêmes et par conséquent extrêmement mal transmis, partagés, diffusés vers les profanes que nous sommes. Et c'est comme ça que vous voyez la plupart des livres de vulgarisation remplis de termes qui ont des significations beaucoup plus journalistiques que scientifiques. Vous pouvez prendre des termes comme le Big Bang, les trous noirs, les supercordes, qui sont des métaphores très souvent extrêmement fallacieuses et qui masquent les concepts véritablement intéressants qui sont dessous plutôt qu'ils n'aident à les comprendre. D'où un divorce entre cette avancée formelle et une compréhension véritablement intellectuelle, ce que j'appelle la synthèse ou la refonte. La refonte, c'est un mot que j'emprunte à un grand épistémologue du début du XXe siècle, le Gaston Bachelard, qui insistait sur le fait suivant. Il disait qu'en science, les révolutions, celles qui amènent à développer des théories radicalement nouvelles, celles que je mentionnais il y a un petit instant, c'est comme dans l'histoire et la politique, à savoir que ceux qui font une révolution ne sont pas toujours ceux qui comprennent ce qui est en train de se passer, qui le maîtrisent et qui arrivent à le mettre en œuvre. C'est une banalité dans le domaine de l'histoire. Prenez notre grande révolution, celle de 89, et bien entre 1789 et la stabilisation d'un régime politique républicain en France, il s'écoule quasiment un siècle. Il va falloir attendre la Troisième République, et entre-temps, une série de bouleversements considérables, l'Empire, la Restauration, une Première République, un Second Empire, etc., etc., pour que enfin la situation se stabilise à peu près. Eh bien, en science, disait Bachelard, c'est pareil, c'est-à-dire que quand une idée nouvelle naît, une théorie nouvelle, ben c'est comme un bébé. Quand un bébé naît, c'est un être qui n'est pas mûr. Il faut d'abord le laver soigneusement, l'envelopper, le réchauffer, le protéger, l'élever, et petit à petit, on le voit grandir et devenir qui il va être. Il faut des années pour qu'un petit bébé devienne même un adolescent dont vous pouvez comprendre la personnalité. Ou pas la comprendre, parce que les adolescents, c'est pas toujours facile. Eh bien, la science, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut du temps de maturation et que entre le moment où elle naît et le moment où elle commence à être comprise, il peut s'écouler une période relativement longue. Que les fondateurs, les génies fondateurs eux-mêmes, les grands créateurs, ne sont pas toujours ceux qui comprennent le mieux ce qu'ils sont en train de faire. On pourrait prendre, si j'avais le temps, je pourrais vous montrer que Einstein n'est pas celui qui a le mieux compris la relativité, celui qui l'a introduite, créée, développé, et que dès son époque, il y avait d'autres grands physiciens, pas aussi géniaux que lui du point de vue de la créativité, mais qui envoyaient mieux la profondeur. Je pense ici à un de nos grands physiciens, à nous, Paul Langevin, qui était un contemporain d'Einstein, et qui a beaucoup approfondi les choses, qui a fait, qui a mis en route une refonte de la théorie. Alors, pour illustrer ce point, on peut mettre en évidence ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle. La fin du XXe siècle, à sa deuxième moitié, grosso modo, n'a pas véritablement connu de révolution scientifique. En fait, les grandes révolutions scientifiques du XXe siècle datent presque toutes de sa première moitié. La relativité, entre 1900-1920, la théorie quantique qui va donner l'essor de la physique moléculaire, atomique, nucléaire, etc., etc., 1900-1930, la cosmologie, l'expansion de l'univers, 1920-1930, l'informatique elle-même se développe essentiellement en 1940-1950. Attention, je parle là des fondements. Je ne suis pas en train de dire qu'aucun progrès n'a été fait depuis, bien au contraire. Dans tous ces domaines-là, nous en savons beaucoup plus qu'il y a une cinquantaine d'années. Mais sur des bases qui, elles, remontent à, pour certaines, bientôt un siècle, et en tout cas, plus d'un... et même la biologie moléculaire, la découverte de la structure en double hélice de l'acide désoxyribonucléique, c'est 1954. Et donc, c'est les années 50-60 qui voient cette grande révolution scientifique. Alors, je répète, aujourd'hui, nous savons beaucoup plus de choses qu'il y a 50 ans, mais nous n'avons connu aucune rupture épistémologique du même ordre. Et ça, ça pose un problème, parce que, étant donné les moyens considérables qui ont été mis en œuvre, beaucoup plus de monde, 10 fois, 100 fois plus de chercheurs pendant la deuxième moitié du XXe siècle que pendant la première, des budgets dont je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient explosé après 1945. Donc on peut dire que l'efficacité de l'entreprise scientifique a été relativement faible pendant la seconde moitié du XXe siècle, et cela continue aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, qu'il n'aurait pas fallu le faire, etc., mais je crois qu'il faut prendre conscience de ce phénomène-là pour savoir exactement de quoi on parle aujourd'hui et ce qui est en train de se passer. Et parmi les surprises de la fin du XXe siècle, donc pas de révolution scientifique digne de ce nom, en revanche, apparition d'un nombre considérable de découvertes, phénomènes surprenants, inattendus, alors qu'on pensait disposer, avec les théories que je viens de citer, d'idées nous permettant de montrer, de comprendre tout ce qui allait se passer. Exemple, des phénomènes nouveaux qui apparaissent, des problèmes anciens qui ne sont pas résolus. Bon, je passe. Les fullerènes sont des molécules très jolies, d'ailleurs, en forme de ballon de foot, plus ou moins, qui sont faites à base de carbone. Vous avez tous appris à l'école que le carbone existait sous forme de diamant et de graphite. Ben non, il y a d'autres formes du carbone qui n'ont été découvertes que dans les années 70, alors qu'elles étaient sous le nez des expérimentateurs. On en trouve une proportion non négligeable dans la suie des cheminées, par exemple. Donc on aurait dû le découvrir depuis belle lurette. La supraconductivité à haute température, je ne détaille pas, mais c'est un phénomène qui permet au courant de circuler sans résistance aucune. Alors très mauvais pour faire des fer à repasser ou des radiateurs, excellent par contre pour faire des électroaimants ou transporter l'électricité à longue distance. Jusque dans les années 60-80, on pensait que ce phénomène était limité à des très très basses températures hors d'atteinte technologique et industrielle raisonnable, quelques degrés absolus, au-dessus du zéro absolu. On découvre de façon purement empirique dans les années 70 qu'on peut pousser ça. Alors vous ne méprenez pas sur les hautes températures, c'est haute par rapport au zéro absolu, c'est quand même moins 120 degrés Celsius, mais moins 120 degrés, c'est la température de l'azote liquide. L'azote liquide, vous en trouvez partout, dans le cabinet de votre dermatologue, chez le dentiste, ça coûte à peu près le prix de la bière, donc industriellement, c'est pas un problème. La fameuse matière noire dont la presse fait état en permanence, c'est une des plus grandes découvertes de la fin du XXe siècle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la matière noire? Ça veut dire quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, pour les gens, les physiciens comme moi, qui ont appris la physique des particules dans les années 60, c'est un choc incroyable. Nous étions habitués à nos bons vieux électrons, protons, neutrons, plus des particules un peu bizarres découvertes dans les années 50-60. Et puis, nous pensions que c'était ça, la matière, que le monde était fait de ces objets. Eh bien, nous savons maintenant, nous croyons savoir, que ça ne constitue que 5% au plus de la matière. 95% de ce qui constitue la matière du monde nous échappe totalement. C'est quand même un choc épouvantable pour une science qui croyait avoir mis le doigt sur la réalité même du monde matériel. Alors, c'est un choc qui en même temps donne... Les physiciens sont assez contents parce qu'ils ont du boulot. Là. Il y a un défi, un programme à remplir. Mais je passe sur le problème du cancer qui n'a toujours pas révélé ses secrets. Vous vous souvenez probablement, pour beaucoup d'entre vous, de la guerre contre le cancer décrétée par le président américain Nixon dans les années 50-60, avec des investissements massifs qui n'ont absolument pas donné les résultats obtenus. Nous savons maintenant soigner de nombreux cancers, prolonger la vie des patients pour d'autres, mais nous avons appris ça de façon essentiellement empirique. Et il est clair que la nature profonde de cette chose-là et les moyens de lutter contre nous échappent encore, alors qu'on aurait pu penser il y a 50 ans que c'était pour demain. Le clonage, c'est pareil, on sait cloner les mammifères supérieurs, ça marche très mal. Ça marche pas mal, 2% de réussite en moyenne. Ça suffit pour les applications, mais on ne sait pas pourquoi. Et je pourrais continuer à l'infini comme ceci. Donc nous nous heurtons à toute une série de problèmes non résolus, malgré des moyens absolument considérables. Quatrième et dernier paradoxe, que j'appelle le paradoxe culturel, jamais la diffusion de la science n'a disposé d'autant de moyens. Les médias, des livres, des musées, à tout va. Mais la rationalité scientifique reste sans prise sur des idéologies qui la refusent, ou, ce qui est peut-être pire, la récupère, et se montre trop limitée devant la complexité des problèmes actuels. Illustration. Alors, je commence par l'espoir qu'on a pu avoir dans la raison, dans la rationalité, jadis par cette citation. On n'a peut-être pas encore prêté assez d'attention à l'utilité dont cette étude, l'auteur parle des mathématiques, peut-être préparer comme insensiblement les voies à l'esprit philosophique et pour disposer toute une nation à recevoir la lumière que cet esprit peut y répandre. C'est peut-être le seul moyen, dit l'auteur, de faire secouer peu à peu à certaines contrées de l'Europe le joug de l'oppression ou de l'ignorance sous laquelle elles gémissent. Bon, vous reconnaissez ici un style typiquement 18e, donc nous sommes à l'époque des Lumières. L'auteur continue, l'auteur c'est D'Alembert, dans la Grande Encyclopédie, à l'article Géomètre. Faites naître, s'il est possible, des géomètres parmi ces peuples, c'est une semence qui produira des philosophes avec le temps et presque sans qu'on s'en aperçoive. Bientôt, l'étude de la géométrie conduira à la vraie philosophie qui, par la lumière générale et prompte qu'elle répandra, sera bientôt plus puissante que tous les efforts de la superstition. Beau rêve, magnifique, fantasme. Enseignons les mathématiques et la philosophie des Lumières nous sera donnée, nous échapperons tous à la superstition et à l'oppression. Évidemment, nous sommes passés de l'espoir du XVIIIe siècle à une profonde désillusion. Cette désillusion, elle peut être illustrée par exemple par l'histoire de la secte Aum Shinrikyo au Japon il y a maintenant une quinzaine d'années. Vous savez, cette secte qui avait fait des attentats au gaz toxique dans le métro de grandes villes japonaises. Eh bien, c'était une secte dont la plupart des membres avaient une très bonne formation scientifique et technique, ce qui leur a permis d'ailleurs d'utiliser ces gaz. Donc c'était des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens, mais qui n'ont pas plus que bien d'autres individus échappés à l'emprise d'une secte particulièrement néfaste. Traversons, puisque nous sommes au Japon, traversons le Pacifique, et vous trouvez aux États-Unis une illustration parmi bien d'autres, un musée du créationnisme, puisque vous savez qu'aux États-Unis, le créationnisme subsiste encore dans une bonne partie de la population qui croit dur comme fer que Dieu a créé l'univers il y a 6000 ans, que les dinosaures ont coexisté avec les humains, etc. Et ils reviennent à l'offensive périodiquement, au point que dans certains États, évidemment les plus arriérés en général sont du Sud, les enseignants sont priés d'enseigner simultanément les théories modernes, la théorie de l'évolution, le darwinisme, et les théories, mettez autant de guillemets que vous le voulez, du créationnisme. Ce musée est en fait un musée du crétinisme, si je peux me permettre. Quel est l'avenir de la science dans ces circonstances? Et je m'arrête bientôt. Bien, prenons un peu de recul pour essayer d'évaluer ce qui s'est passé au cours, cette fois-ci, non pas seulement des 3-4 derniers siècles, mais des quelques derniers millénaires. Et regardons la situation quant au rapport entre science et technique. La technique est aussi vieille que l'humanité, peut-être même plus vieille. Je tiens pour ma part qu'une des découvertes scientifiques les plus importantes du XXe siècle, c'est une découverte faite en éthologie, en sciences du comportement animal, dans les années à partir des 70-80, où on s'est rendu compte que certaines espèces animales, les grands singes en particulier, avaient une culture technique. Non seulement qu'ils utilisaient des outils, ça on savait depuis un certain temps. Les chimpanzés utilisent ou des cailloux ou des pierres pour casser les noix. Mais que c'est une culture technique au sens où elle est transmise. Elle n'est pas du tout instinctuelle et vous pouvez prendre des populations de chimpanzés exactement de la même espèce, vivant dans les mêmes milieux, mais séparés par un bout de savane ou une rivière infranchissable, et donc sans communication les uns avec les autres, ils n'ont pas les mêmes techniques. Les uns cassent les noix avec des bâtons, les autres avec des pierres, et ces techniques sont enseignées. Il y a des films formidables, vous les voir d'ailleurs sur YouTube, c'est très facile à trouver, où on voit une maman chimpanzé en train d'enseigner à son petit à casser des noix. C'est absolument touchant. Elle lui met une pierre dans la main, elle lui prend la main, elle lui apprend à taper. Bon, se sent en parfaite communauté avec ce qu'on a un peu de mal après ça à appeler des animaux. Bref, cette technique, elle a toujours existé. Effectivement, chez nos ancêtres ou parents les plus lointains, les australopithèques, on sait qu'ils utilisent déjà des pierres. Oh, bien sûr, c'est pas des galets superbement taillés comme ceux du moustérien, les lames bifaces parfaitement symétriques, c'est beaucoup plus grossier, mais ils ont de la technique. La science, en tant que connaissance conceptuelle et théorique du monde, naît beaucoup plus tard. Elle naît quand se développent effectivement des moyens de transmission qui vont au-delà du langage commun et qui nécessitent l'écriture. Fixer des concepts théoriques, il faut avoir des moyens de reproduction de la pensée qui permettent le passage au-delà de ce que la simple parole peut transmettre. L'écriture apparaît il y a quelques milliers d'années. Quelques milliers d'années, c'est pas grand-chose par rapport aux quelques centaines de milliers, voire millions, qui nous séparent de la naissance de la technique. La science est une nouvelle venue dans l'évolution. J'entends, quand je dis science, j'entends par là une connaissance théorique du monde. Alors, bien sûr, nos ancêtres australopithèques, puis Homo habilis, etc., avaient une connaissance du monde. Ils connaissaient les plantes les plus utiles pour la nourriture, pour se soigner, etc. Mais c'était une connaissance qui n'était pas théorisée, qui était une connaissance empirique. La connaissance théorique, elle va naître avec l'astronomie des Babyloniens, puis avec la géométrie des Grecs, etc., etc. Ce sont deux mondes complètement séparés pendant un bon bout de temps. Pourquoi ? Pensez à la cité grecque, puisque je viens d'y faire allusion. la technique, elle est entre les mains de qui? Des artisans qui sont des esclaves. Les maçons, les menuisiers, les constructeurs navals, les architectes sont des esclaves qui disposent de techniques extrêmement performantes, ils savent faire, ils n'ont pas besoin des théorèmes de la géométrie d'Euclide. La géométrie d'Euclide ne vise aucun but pratique. La géométrie d'Euclide, c'est un objet théorique, philosophique. Vous savez que Platon écrivait au-dessus du fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Géomètre pourquoi? Parce que la géométrie est un exercice de pensée qui met en scène, qui met en œuvre le raisonnement logique et qui donc est utile comme base de l'apprentissage et du développement philosophique. La science mathématique à cette époque est une branche de la philosophie et n'a que très peu, voire pas, d'application pratique. Il y aura quelques-unes un peu plus tard, un peu chez Archimède, un peu chez les géomètres alexandrins, mais pour l'essentiel, on peut dire que la géométrie grecque ne sert, au sens pratique du terme, à rien. Et ça va rester comme ça pendant très longtemps. La situation sociale est telle que cette séparation entre ceux qui travaillent la matière, qui la transforment, et ceux qui travaillent les idées, les concepts, va être radicale pendant extrêmement longtemps, quasiment jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, vous avez l'effet d'une transformation sociale majeure qui s'est déroulée dans les décennies et les siècles précédents, à savoir l'apparition de la bourgeoisie urbaine, c'est-à-dire la montée en puissance de couches commerçantes et artisanales qui cessent d'être réduites en esclavage puis en servage, puis simplement dominées par la féodalité, qui prennent leur autonomie, ce qui fait que les tâches pratiques concrètes, les métiers artisanaux sont désormais valorisés, puisque ce sont des gens qui vont être à la tête des villes, des bourgeoisies urbaines, en Italie d'abord, puis dans le reste de l'Europe. Et donc, marchand de draps ou architecte n'est plus une profession vile et méprisable. Et du coup, le rapport entre les pratiques artisanales et techniques et la réflexion théorique va devenir possible. C'est explicitement énoncé chez Galilée, qui est l'un des grands fondateurs de la science du 17e, dans un très beau texte où il explique que c'est sa fréquentation de l'arsenal de Venise qui lui a permis de se poser des problèmes de mécanique et de comprendre comment les résoudre. Donc cette mécanique théorique naît de sa base technique parce que, effectivement, c'est désormais possible de faire le couplage. Donc la science moderne, depuis le XVIIe, se déploie et s'amplifie sous l'effet du développement technique, et elle va lui rendre, mais tardivement. Quand Descartes dit, j'avais commencé par là, grâce à la science, nous deviendrons comme maîtres et possesseurs de la nature, c'est un projet à long terme, ça ne marche pas pendant deux siècles. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a très peu d'applications pratiques de la science. Ça ne va véritablement commencer de façon massive qu'à l'extrême fin du 18e et au début du 19e, essentiellement avec la chimie, puis après avec l'électricité, la vapeur, etc., etc. Et donc là, le couplage va se faire en sens inverse, de la science vers la technique. Au 20e siècle, le couplage va devenir très étroit, tant et si bien qu'aujourd'hui, nous avons affaire non plus à d'un côté de la technique, de l'autre côté de la science, mais à quelque chose que les historiens des sciences contemporaines s'accordent à appeler technoscience, et où il n'y a pas de séparation nette entre ce qui relève de la recherche fondamentale, ce qui relève de la recherche appliquée. Et évidemment, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, les enjeux industriels, économiques de la technique tendent à l'emporter de plus en plus sur les enjeux intellectuels et conceptuels de la science fondamentale. Voilà ce qui concerne la science et la technique. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le rapport entre la science et la culture. Et bien, de ce que j'ai dit, il résulte clairement, puisque la science était partie intégrante de la philosophie dans l'Antiquité, qu'elle appartenait au monde de la culture. Et ça va rester vrai pendant assez longtemps, y compris au XVIIe siècle, si vous prenez des gens comme Galilée déjà cité ou Descartes déjà cité, si vous leur aviez demandé quel était leur métier, vous n'auriez pas dit je suis physicien, vous auriez dit je fais de la philosophie naturelle. J'appartiens au monde de la culture. Et d'ailleurs, Descartes nous est connu non seulement comme mathématicien et physicien, mais au moins autant comme philosophe et comme écrivain. Pascal n'est pas seulement un bon mathématicien, c'est aussi un immense philosophe et un écrivain de génie. Et on pourrait multiplier l'exemple de cet ordre-là. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que la science va se développer et se rapprocher de la technique, elle va décrocher du monde culturel. Et au XIXe siècle, à partir du moment où la science va devenir une force sociale importante de par son investissement dans la technique et l'industrie, elle va se déculturer de plus en plus, et vous allez avoir une séparation entre ce qu'on appelle d'un côté les sciences dures, et de l'autre côté ce que les partisans des sciences dures appellent les sciences molles, ce qui est très dépréciatif évidemment. Les Américains, les Anglo-Saxons parlent de soft science, il est quand même mieux, c'est les sciences souples, les sciences douces, plus agréables. Mais on pourrait renverser complètement les choses et dire que dans un cas on parle des sciences sociales et humaines, et peut-être de l'autre côté de sciences asociales et inhumaines. C'est une autre façon d'énoncer les choses. Alors, je vais terminer, quel est l'avenir de la science? Le problème, c'est effectivement celui de la démocratie. C'est le problème de savoir si le développement scientifique aujourd'hui peut être, soluble dans la démocratie. Cela n'est pas évident du tout. Prenez les textes de Renan. Un grand texte qui s'appelle « L'avenir de la science » en 1848. L'objectif que propose Renan, c'est le suivant. « Organiser scientifiquement l'humanité ». Tel est donc le dernier mot de la science moderne, son audacieuse mais légitime prétention. C'est-à-dire non pas soumettre la science à la société, mais soumettre la société à la science. Et ça, il écrit ça en 1848. Il écrit un peu plus tard, en 1871, où, et ce n'est pas un hasard, c'est au moment de la Commune, mais Renan est réfugié à Versailles, avec Thiers et les Versaillais, il écrit « Si l'on veut imaginer quelque chose de solide, il faut concevoir un petit nombre de sages tenant l'humanité par des moyens qui seraient leurs secrets et dont la masse ne pourrait se servir parce qu'ils supposeraient une trop forte dose de science abstraite. » On dit un déni explicite du projet démocratique. On peut se rappeler par ailleurs, puisque je citais tout à l'heure les grands philosophes du XVIIIe, les encyclopédistes, que éclairés fussent-ils, ce n'étaient pas des démocrates au sens moderne. Pour eux, le système idéal, c'était le despotisme éclairé. Ils n'étaient pas pour le suffrage universel, il ne fallait pas faire voter les paysans incultes, etc. Et Diderot était en étroite collaboration avec Catherine II de Russie, Voltaire ami avec Frédéric II de Prusse. Le despotisme éclairé a d'ailleurs une certaine cohérence. Le problème, aujourd'hui, c'est de savoir si nous ne sommes pas en train de passer dans une autre phase qui serait non pas le despotisme éclairé, mais une démocratie éteinte. C'est-à-dire un système, j'entends par là, un système où, oui, les formes extérieures de la démocratie sont respectées, nous avons le droit de vote universel. Même les femmes, vous vous rendez compte, depuis un demi-siècle, incroyable. Nous pouvons voter pour nos conseillers généraux, pour nos députés, pour notre président, etc. Est-ce que véritablement ce vote nous offre de vrais choix politiques? Laissons ce terrain de côté, encore qu'il soit brûlant en ce moment. Mais est-ce qu'il nous offre de vrais choix en matière de développement scientifique? Est-ce que vous avez été appelé à vous prononcer en élisant vos députés ou votre président sur l'industrie nucléaire, sur le développement des techniques militaires, sur les priorités de la recherche médicale? Non, bien sûr. ces choix qui sont cruciaux pour l'avenir de la société se sont faits jusqu'à présent, y compris dans des sociétés qui se disent démocratiques comme la nôtre, n'ont jamais été faits de façon démocratique. Et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin et montrer que d'une certaine façon, ces choix n'ont jamais été faits explicitement. On pourrait prendre l'exemple du programme nucléaire français et constater qu'au fond, il n'y a jamais eu une véritable décision politique disant « on va maintenant construire un arme nucléaire français ». En fait, ça s'est fait. Après la guerre de 39-45, il y a des gens qui ont dit « ce serait bien qu'on fasse des programmes de recherche pour le jour où les politiques auraient peut-être envie de ». Bon, alors il y a des programmes de recherche qui se sont amplifiés petit à petit et ils ont fini par déboucher par une suite de paliers successifs, mais sans jamais que la question ait été posée au Parlement, ni même d'ailleurs au gouvernement. Donc c'est un véritable problème aujourd'hui, et que de savoir si la science est compatible, la science telle qu'elle est aujourd'hui, j'aurais dû écrire la technoscience, est compatible avec la démocratie. Et je termine par une citation, dont je ne sais pas si vous allez reconnaître l'auteur. De nos jours, toute chose paraît grosse de son contraire. La machine possède le merveilleux pouvoir d'abréger le travail et de le rendre plus productif. Mais nous la voyons qui affame et surmène les travailleurs. Par l'effet de quelque étrange maléfice du destin, les nouvelles sources de richesse se transforment en sources de détresse. Les victoires de la technique semblent être obtenues au prix de la déchéance totale. À mesure que l'humanité se rend maître de la science, l'homme semble devenir esclave de ses semblables ou de sa propre infamie. On dirait même que la pure lumière de la science a besoin pour resplendir des ténèbres de l'ignorance et que toutes nos inventions et tous nos progrès n'ont qu'un seul but, doter de vie et d'intelligence les forces matérielles et ravaler la vie humaine à une force matérielle. Suite et fin. Ce contraste de l'industrie et de la science moderne d'une part, de la misère et de la dissolution moderne d'autre part, cet antagonisme entre les forces productives et les rapports sociaux de notre époque, c'est un fait d'une évidence écrasante que personne n'oserait nier. Certains peuvent le déplorer, d'autres peuvent souhaiter être délivrés de la technique moderne et donc des conflits modernes, d'autres enfin peuvent croire qu'un progrès aussi remarquable dans le domaine industriel a besoin, pour être parfait, d'un recul non moins marqué dans l'ordre politique. Ce texte a plus de 150 ans. Il est extrait d'une allocution de Karl Marx en 1856. On ne saurait dire mieux aujourd'hui, hélas. Je m'arrête là et la discussion prend les termes. Merci.
C'est Pierre Jean. Hein. Je voulais savoir si le chantier ITER à Cadarache relève de la science appliquée ou de la recherche fondamentale, et dans la seconde, si la bonne réponse est la seconde, recherche fondamentale, s'il faut considérer qu'elle marque une reprise au niveau international de la recherche fondamentale, et quel serait votre pronostic par rapport à ce chantier, puisque vous avez montré que vous pouviez en faire des pronostics sur ce genre, sur ce type de projet. Voilà.
Je peux faire des pronostics, mais je ne les garantis pas. En l'occurrence, d'ailleurs, la question est simple, puisque la réponse à votre question est non. ITER ne relève pas de la recherche fondamentale, en aucun cas. C'est-à-dire que la fusion nucléaire qui nous promet de l'énergie à bon marché, c'est un exemple que j'aurais pu traiter un peu plus en détail, on nous le promet toujours à 10-20 ans d'échéance depuis plus de 50 ans maintenant. Les journaux de vulgarisation auxquels je faisais allusion tout à l'heure, dans les années 50, disaient, ben, ça y est, là on a de l'énergie nucléaire de fission, celle de la bomba, mais bientôt on domestiquera la bombage et on en fera des centrales. Et c'était donné pour quelques années, 1960. Ça a reculé de plus en plus. Et jusqu'à présent, on n'a pas réussi à maîtriser, et ITER, de ce point de vue-là, n'est qu'un objet, qu'un prototype gigantesque de ce que pourrait peut-être être le cœur d'une centrale thermonucléaire future. Il n'y a aucun problème théorique fondamental nouveau posé dans ITER. ITER utilise nos connaissances acquises depuis plusieurs décennies en matière de physique nucléaire, en matière de magnétisme, en matière de physique des plasmas, etc. Ce n'est absolument pas de la recherche fondamentale. Ce n'est que de la recherche appliquée et du développement. En vérité, c'est essentiellement un projet politique. C'est-à-dire que ces grands projets techno-industriels sont d'une certaine façon, d'une part, la possibilité pour des consortiums internationaux de passer des accords qui garantissent des circulations de concepts et d'idées, mais appliquées, permet des transferts de compétences, comme ils disent, que des ingénieurs du Japon vont venir travailler avec des ingénieurs français ou américains, et donc ça collectivise une partie de l'intelligence technique. Et d'autre part, c'est une sorte de pari pour l'avenir qui, rapporté au budget global, peut être considéré comme d'un coût raisonnable. Alors, puisque vous me demandez un pronostic, mon pronostic, c'est que ITER, d'abord, va accumuler les retards de mise en œuvre. Ils sont déjà là, d'ailleurs. Ça recule déjà d'année en année. Va accumuler les surcoûts, le facteur 3 dont je parlais. Je suis prêt à parier qu'il sera là d'ici une vingtaine d'années. Et que, au mieux, il ira un peu plus loin que les objets techniques actuellement disponibles, en montrant que peut-être 50 ans après, peut-être qu'on arrivera à faire des vraies centrales. Et il ne règle aucun problème fondamental, puisque, contrairement à ce qui est très souvent dit, les problèmes de pollution nucléaire se posent aussi, non pas tant sous la forme de déchets qu'il faut entreposer, traiter et planquer, ça non, mais sous forme d'une radioactivité considérable des installations elles-mêmes, qui vont être bombardées de neutrons, et qui, au bout de plusieurs années, deviendront tellement radioactives qu'il faudra les isoler, et que les problèmes de démantèlement se poseront aussi bien pour les centrales à fusion que pour les centrales à fission. Donc je pense que c'est une voie sans issue. Et qui coûte cher. Et que d'autres projets, en restant dans le domaine de l'énergie, des investissements du même ordre, c'est-à-dire à hauteur de quelques dizaines de milliards d'euros, auraient beaucoup plus raisonnablement pu être faits, pareil, à un niveau international, dans le domaine des énergies nouvelles ou renouvelables. Construire des centrales solaires meilleur marché, imaginer des techniques de désalinisation de l'eau de mer. Il y a des tas de projets qui gagneraient à être entrepris sur des échelles comparables à celles-là.
J'ai remarqué dans les chronologies que vous présentiez, il y avait une corrélation entre disons le développement de la transformation de la science en technoscience et finalement l'arrêt des grandes découvertes scientifiques. Y a comme, enfin, moi j'ai vu dans la chronologie que vous avez présentée comme un lien chronologique entre les deux. Alors qu'est-ce que vous tirez vous? Est-ce que vous tirez vous une conclusion de ce constat? Est-ce que vous avez fait ce constat et quelle conclusion vous en tirez?
C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est pour ça que je n'ai pas donné. Alors il y a une corrélation dans le temps, vous l'avez fort bien remarqué, c'est exact. La science devenant technoscience a cessé en même temps, pour l'instant, de faire des découvertes fondamentales vraiment radicalement nouvelles. Est-ce une relation de cause à effet? Est-ce la seule cause de la chose? Je serai un peu plus prudent avant de l'affirmer. Qu'il y ait un effet, c'est hors de doute. C'est hors de doute parce que cette technicisation de la science a, entre autres conséquences, qu'elle permet de plus en plus difficilement le développement de recherches fondamentales sur le long terme. Parce que vous avez un cercle vicieux. les physiciens ou les biologistes ont besoin de matériaux et de, d'instruments, d'appareils de plus en plus compliqués, de plus en plus chers pour faire ce qu'ils ont à faire. Soit. Alors ils obtiennent, de plus en plus difficilement d'ailleurs, ces crédits, mais sous réserve de promettre des applications à de plus en plus court terme. Il faut bien voir que les grandes applications techniques de la science du 19e, par exemple, et ce n'était pas du tout prévu, quand Maxwell, grand physicien britannique, invente les équations de Maxwell qui traitent l'électricité et le magnétisme ensemble, il ne le fait pas du tout en imaginant qu'il permettra à M. Berlusconi ou à M. Bouygues de faire des bénéfices considérables 100 ans plus tard. Il n'a aucune idée des applications potentielles de ce qu'il est en train de trouver. Ce sont d'autres ensuite, des ingénieurs, puis ensuite des industriels, qui vont mettre en application ces découvertes. Les grandes avancées scientifiques du 19e, mais encore du début du 20e, sont passées dans le domaine des applications techniques et industrielles de cette façon-là. Les choses ont changé radicalement, ben justement, au milieu du XXe siècle, et le programme nucléaire en est l'exemple typique. Ce sont les meilleurs physiciens, théoriciens, fondamentalistes du monde qui sont recrutés par l'armée américaine à Los Alamos pendant la Seconde Guerre mondiale pour mettre au point la bombe A. Et ils font un travail génial, génial. En 2 ans, ils arrivent à faire un truc dont on ne savait même pas qu'il était possible. Et ceci parce qu'ils ont des moyens considérables qui sont organisés sur une échelle industrielle. C'est la première fois qu'on réunit des centaines de chercheurs et qu'on les organise de façon militaire. Le directeur du programme Manhattan, c'est un général, c'est pas un physicien. Le physicien Oppenheimer, il est son directeur. Et ça marche, alors que les physiciens eux-mêmes sont sceptiques au début, disant « mais non, vous donnez des règles de confidentialité, de secret, mais la science ne fonctionne pas comme ça. Non, non, vous n'avez pas le droit, vous vous occupez d'isotopes, vous n'avez pas le droit de discuter avec vos copains qui s'occupent des études physiques, non, non. » Et ça marche. Et alors évidemment, c'est là que démarre, après la Seconde Guerre mondiale, ce programme à la Van Warbusch, Science and Space Frontier, parce qu'on a vu qu'en y mettant le paquet de dollars et l'organisation, ça produisait des résultats. Mais ça en produit beaucoup moins que ce qu'on croit, et petit à petit, c'est ça qui explique les infléchissements des investissements que je vous ai montrés au début, et il y a un moment, justement ce moment-là, les années 80, où au lieu que l'État investisse quasiment à fond perdu, ou tout au moins en espérant une rentabilité à très long terme, c'est l'industrie qui prend le relais et qui dit « d'accord, on vous donne des sous, mais nous on veut des résultats dans 2 ans, dans 3 ans. On n'a pas le temps d'attendre 20 ans ou 30 ans et de même pas être sûr que ça servira à quelque chose. » Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'imagine un jeune physicien comme je l'étais il y a 50 ans, plein d'ambition et en se disant « ah là là, peut-être que moi je vais trouver le secret de la matière noire et que il faut que je sois le nouvel Einstein », mais qui, étant donné la difficulté du problème, se disent « je vais demander une équipe de 10 chercheurs autour de moi et des crédits de travail pour 10 ans ». On lui rira au nez, on lui dira « c'est bien beau mon garçon, c'est bien d'avoir une telle ambition, mais donne-nous quelque chose de beaucoup plus modeste, mais qui permettra d'être breveté dans 2 ans. » Et donc, de ce point de vue-là, ce mode de fonctionnement ne favorise évidemment pas la recherche fondamentale. Est-ce que ça l'empêche complètement? Non, heureusement. Il subsiste des secteurs, il subsiste des individus, il subsiste une part de la recherche qui fonctionne encore dans certaines disciplines. Donc, je ne saurais affirmer que cette industrialisation, technicisation de la science est le seul facteur qui explique sa stagnation. Il se peut aussi que nous soyons simplement devant des problèmes d'une difficulté telle qu'il nous faille des décennies pour arriver à la résoudre. C'est déjà arrivé dans l'histoire des sciences, ça arrivera encore. Donc, on est dans une situation qui est assez complexe. Donc je ne veux pas être trop caricatural à cet égard. Il se pourrait que demain, deux ou trois physiciens géniaux aient compris la matière noire, comme ça, c'est possible. Mais disons que l'atmosphère générale, le mode d'organisation générale de la science aujourd'hui n'est pas favorable. L'environnement social n'est pas favorable à la recherche fondamentale.
Oui, donc c'est un exposé extrêmement intéressant. J'aurais plein de questions, mais on n'a pas le temps, donc ce sera pour l'informel. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur une partie du début de votre intervention par rapport au fait que la science, actuellement, ne permettrait plus de faire des progrès en matière de santé et en matière de paix. Là, je m'insurge là-dessus et je vais quand même revenir sur votre intervention précise. Donc, vous avez parlé de la tuberculose. La tuberculose, quand on regarde les chiffres officiels de l'OMS, elle a diminué de 45% entre 1990 et 2012. Donc c'est quand même un progrès, c'est pas une régression. Le nombre de la mortalité infantile, quand on regarde les chiffres officiels, elle est passée de 61 pour 1000 enfants il y a 15 ans à 47 pour 1000 aujourd'hui. Le nombre de morts par conflit n'a jamais été aussi bas durant l'histoire de l'humanité, en proportion et même en chiffre absolu depuis environ 50 à 100 ans. Et dernière chose, c'est ce qui m'intéresse le plus, l'espérance de vie progresse de 2 à 3 mois par année depuis un siècle et demi maintenant, et rien n'indique une interruption pour le moment actuellement. Donc les chiffres continuent à progresser et les maladies cardiovasculaires continuent à diminuer, les cancers continuent à diminuer rapidement. Donc maintenant, vous pouvez dire non, mais vous pouvez aussi consulter les statistiques officielles et complètes à ce sujet-là. Et donc, on peut imaginer que sur le futur, la chose ne se poursuive pas. Mais dire, par exemple, le nombre de morts par tuberculose maintenant, c'est déjà en augmentation, c'est faux. Je veux dire, c'est simplement faux. Il peut y avoir des régions où c'est, mais au niveau global mondial, c'est faux.
Bien, oui, alors, je me suis mal fait comprendre. Je n'ai pas du tout dit à aucun moment, par exemple, que le nombre de malades tuberculose dans le monde augmentait. J'ai simplement dit que dans certains pays, y compris développés, en France, il a augmenté dans les 20 dernières années. En France, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas diminué ailleurs. Je ne dis pas du tout que la médecine n'a pas des effets extrêmement positifs sur toute une série de problèmes. Je dis simplement que, au contraire, il y a des conquêtes de la médecine et de la pharmacologie qui ne sont pas accessibles à ceux qui en auraient le plus besoin pour des raisons d'ordre social et politique. J'ai donné l'exemple du sida. Il a fallu des batailles politiques considérables dans les pays du tiers-monde pour obtenir la possibilité de fabriquer des génériques. Vous le savez au moins aussi bien que moi. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Hein. Je ne voulais pas du tout jeter le discrédit sur les recherches en matière médicale. Bien au contraire, je voulais déplorer que leur efficacité soit limitée à l'heure actuelle par la loi du profit, disons les choses. Je ne crois pas qu'il faille attendre une solution au problème politique que pose la science de la part des scientifiques. Les scientifiques sont des gens comme tout le monde. Hein, si vous faisiez un sondage dans les milieux scientifiques, constateriez que l'éventail des opinions sur la plupart des problèmes politiques, et y compris même probablement sur les problèmes écologiques ou environnementaux, l'éventail est le même. Les scientifiques qui sont scientifiques, quand ils sont scientifiques, cela ne leur donne aucune priorité ou privilège citoyen, quel qu'il soit. Et il y a même un vrai problème dans la mesure où ils ont tendance parfois à s'accaparer de toute bonne foi souvent une compétence politique qu'ils n'ont pas. Ça, c'est l'argument de Renan là. Hein. Organiser scientifiquement l'humanité. Et il y a une naïveté politique chez les scientifiques en général qui est la même que chez les autres. Quand je dis scientifique ici, je parle évidemment essentiellement des scientifiques des sciences dures, inhumaines et asociales, précisément parce qu'ils ne sont pas assez cultivés en matière de politique, de sciences humaines et de sciences sociales, et qu'ils sont d'une grande naïveté à cet égard. Donc si l'on voulait changer dans les milieux scientifiques la posture de la plupart des chercheurs, il faudrait commencer par modifier considérablement leur formation professionnelle. Et ça, il faudrait commencer, en fait, non pas seulement la formation professionnelle des chercheurs, mais dès l'enseignement secondaire, donner de la science une présentation qui ne se résume pas au théorème de maths, au cours de la physique, aux expériences de la biologie, mais qui la replace dans son cadre historique et politique plus général. Et ça, ça n'est pas fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la science est présentée comme étant à part du monde social, ce qu'elle n'est pas. C'est pour ça que j'ai bien insisté tout à l'heure sur les raisons de la révolution du XVIIe siècle, etc. Donc, à l'heure actuelle, il me semble qu'il est tout à fait illusoire d'attendre du milieu scientifique, des milieux scientifiques, quelques réactions que ce soit. Ils auront beaucoup plus tendance, comme tout milieu professionnel d'ailleurs, à défendre leurs intérêts propres plutôt que à se mettre du côté des intérêts généraux. Ils ne seront pas plus coupables ou plus mauvais que quiconque, mais pas meilleurs non plus.